Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus, c'est Clotilde Seille et c'est une nouvelle fois à livre découvert qui commence pour vous. Nouvelle formule cette année puisque nouvelle durée, une heure de temps avec vous, une heure avec nos invités et puis plein de titres à vous proposer. Alors ne perdons pas de temps et commençons tout de suite.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, j'ai pour vous d'abord un entretien avec Gérald Cousineau, un abonné, et je dirais presque un abonné de l'émission aussi, non seulement du SQLA, mais aussi de l'émission qui va venir nous présenter un livre. J'accueille Michel Langlois, scénariste, cinéaste et documentariste et auteur du documentaire Anne des 20 jours, sorti en 20 mai 2014. De quelle Anne s'agit-il ? Il s'agit d'Anne Hébert. On pourrait presque considérer que cette première demi-heure de l'émission, c'est presque un spécial Anne Hébert. Et puis, j'aurai aussi le plaisir de retrouver Marie-Christine Morat, bénévole ici chez Vues et Voix, qui viendra nous présenter La Maison des Anges de Pascal Bruckner. Et puis, comme l'émission dure une heure, nous avons le temps pour d'autres rubriques. Alors, il y aura le classique de la semaine, il y aura aussi la page de littérature, et puis il y aura des nouvelles et des livres. Allez, c'est parti.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérald Cousineau.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous?
Ah, fort bien, la sieste était bonne.
Alors quand je dis que les livres audio vous en mangez, dans votre cas, c'est encore...
Je les dévore.
Ah oui, hein. vous en lisez combien à peu près?
Oh, je ne sais pas, un ou deux par semaine. Je travaille à temps plein, donc je lis un peu moins, mais quand même, un ou deux ou trois par semaine.
Et vous, Gérald, en tant que non-voyant, quand on dit vous lisez, parce que je veux dire, nous on ne dit jamais vous écoutez, hein, on considère que vous lisez des livres. Est-ce que ça vous semble correct comme
oui,
expression?
Oui, moi je lis avec mes oreilles.
C'est ça, exactement. Vous lisez avec les oreilles. Et là, vous nous proposez aujourd'hui un livre lu avec ses oreilles. D'ailleurs, tiens, ça ferait un joli titre d'ailleurs. Oui, je vous remercie de me l'avoir suggéré. Bon. Ça pourrait faire le titre d'une nouvelle rubrique. Les livres, lui, avec les oreilles. Ah, je trouve ça beau. Bon. Je trouve ça bon, Gérald. D'accord, comment je vous dois?
J'ai un copyright. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, je vous enverrai un chèque, d'accord. Gérald, vous nous parlez du nouveau livre de Yasmina Kadra.
Je ne sais pas si c'est le nouveau, parce que ce monsieur écrit à un rythme infernal.
Ah oui?
Le livre « Les anges meurent de nos blessures » a paru en 2013. Bon, les gens qui connaissent bien Kadra connaissent sa fameuse trilogie « Les hirondelles de Kaboul »,« L'attentat »,« Les sirènes de Bagdad ». Il est célèbre maintenant. Cet ancien militaire est devenu écrivain et est maintenant célèbre mondialement. Alors, « Les anges meurent de nos blessures », ça se passe évidemment en Algérie. Alors, nous avons un narrateur dont la vie va graviter autour de la boxe et, je dirais, autour de trois femmes, Nora, Aïda et Irène. Mm-hmm. Alors, donc, ce monsieur vit dans une misère noire, dans un bidonville de Sidi... Mm-hmm. Oh mon Dieu, je pense parce que j'ai oublié le nom complet, là, Belabès, Sidi
oui,
Belabès. Mm-hmm. Voilà, pas très, très loin d'Oran.
On a rarement vu des boxeurs vivre dans l'opulence.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, le début est assez difficile. C'est le cas pour lui aussi. Donc, ce monsieur vit dans une misère noire. Mais, encore là, Kadra excelle à peindre ce genre de milieu. C'est jamais très rose, l'univers de Kadra. Hein. Mais là, c'est vraiment très bien peint, très bien rendu, cette misère du peuple algérien, ce racisme flagrant dont il est victime de la part, évidemment, des colonisateurs français.
Dans les années 20, excusez-moi.
Oui, parce que j'ai oublié de dire que le narrateur, qui d'ailleurs a 93 ans, quand commence le récit, est né en 1910. Donc, ça donne une idée de sa longue vie. Mm-hmm. Donc, il est né en 1910 et un jour, tout à fait par hasard, il se fait remarquer d'un entraîneur de boxe parce que ce monsieur est candide. Oui, il a une candeur désarmante, mais il a et ça, c'est une bonne chose pour lui, il a un direct du gauche foudroyant. Et ça va être son gagne-pain. De 1932 à 1937, il va boxer, il va accumuler les succès. Oui. Mais en même temps, c'est un homme qui n'a pas de chance avec les amours de sa vie. Nora lui échappe, Aida lui échappe, Irène, le troisième amour de sa vie, va être assassiné, oui, dans des conditions sordides. Il va deviner qui est l'assassin, il va aller le voir, il va le tuer, mais en fait, le monsieur qu'il pense avoir tué va survivre, mais il s'est trompé. Il s'est trompé de personne. Le vrai assassin va être pris par la suite. Donc, c'est vraiment un enchaînement de drames, de bonheur, de drames, de bonheur. Et à un moment donné, croyant qu'il a tué la mauvaise personne, l'assassin d'Irène, il va se saouler dans un bordel. Il va tuer un client. Il va être condamné à mort. Et là, je ne vous dirai pas ce qui se passe. Mais de toute évidence, il ne coûtera pas la guillotine puisqu'il vit jusqu'à 93 ans. Alors, je ne donne pas la fin. Mais c'est un roman que j'ai bien aimé. Peut-être pas aussi prenant pour moi, là, je dis bien pour moi, que l'attentat qui était... assez dur à lire, mais quand même, je pense que quand on aime Cadra, on va aimer ce roman-là. C'est très prenant quand même. Et encore une fois, c'est peint avec un réalisme terrible, je dirais terrible. On est là, on est vraiment là avec lui, on est vraiment là avec le petit peuple d'Oran. Et parce que c'est peint de façon réaliste, mais en même temps, on sent que le narrateur, évidemment, a un penchant pour ces gens-là. Et encore une fois, le racisme dont ils sont victimes est tellement flagrant qu'on ne peut s'empêcher de prendre pour ces gens-là qui, hélas, ne s'en sortent pas ni au plan matériel, ni en amour. Et c'est le cas, évidemment, de ce narrateur dont j'ai oublié de dire aussi qu'il s'appelle, qu'on le surnomme Turambeau. Ouais. Une déformation d'Arthur Rimbaud. Et lui, il croit que c'est le nom de son village natal. Mais non, pas du tout. C'est que Turambeau, c'est en fait Arthur Rimbaud. Mais lui est un alphabète. Donc, il croit que c'est le nom de son village natal. Alors, toute sa vie, on l'appelle Turambeau, jamais de son vrai nom.
J'ai l'impression que c'est un roman qui est écrit comme un combat de boxe, parce que toutes les critiques que j'ai pu lire à droite et à gauche ont dit les situations claquent, les mots fusent. On a vraiment l'impression que c'est une suite de...
En fait, l'auteur nous assène des directs, l'un après l'autre.
C'est ça, exactement.
Parce que dès qu'il y a un beau passage, là on retombe dans le côté dur du roman, la boxe. Parce qu'au vrai sens du mot, ce monsieur va manger beaucoup de coups de poing sur la gueule.
Oui.
Mais il est déterminé, il dit quelque part que... Son ambition est aussi grande que sa fin. Malheureusement, son ambition va le mener très haut, c'est vrai, mais il va redescendre très bas aussi, très, très, très bas.
Est-ce que c'est un livre que vous recommandez aux âmes sensibles ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils évitent ou...
Non, pas du tout. Moi, je pense que les gens qui s'intéressent à l'histoire, par exemple, devraient lire ce roman parce qu'encore une fois, on ne connaît pas beaucoup l'Algérie du début du 20e siècle. Et on connaît plus, bien sûr, la période très dure de la guerre d'Algérie. Mais c'est un des rares romans que j'ai lus dont l'action se déroule au début du 20e siècle. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine. Et aussi, on peut penser à Camus aussi. Certains passages m'ont fait penser à Camus, Oran, par exemple, où on pense que la peste se situe, la peste de Camus. Là. Alors, je pense que des lecteurs de Camus vont peut-être s'y retrouver. Et ceux qui aiment l'Algérie, malgré toutes les vicissitudes que ce pays a traversées depuis belle lurette. Là.
Oui, justement, là, je lis dans une critique sortie dans l'Express le 23 septembre 2013, « Dureté, pureté, comme son personnage, le roman balance entre les deux. » Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je parlais de candeur, on pourrait parler de pureté.
Ah, c'est
il est pur, mais il s'est trompé d'univers, finalement. Mm-hmm. Et ses anges veillent sur lui, mais à un moment donné, ses anges vont comme l'abandonner.
Oui.
Voilà son
destin. Et on nous dit que ça révèle bien des rêves, bien des tensions. La rivalité notamment entre berbères et arabes.
Oui.
Et puis le poids de la culture européenne. Et puis surtout, le sort des femmes.
Ah oui, évidemment. Lui, il a comme troisième amour et il s'amourache d'une... Non, s'amourache, c'est un peu péjoratif. Il tombe carrément amoureux d'une Française. Et ce sera le dernier amour de sa vie, mais le plus tragique, finalement.
Gérald, si vous me le permettez, je voudrais lire un court extrait de ce roman dont je rappelle le nom « Les anges meurent de nos blessures » de Yasmina Kadra. Kadra, je vous l'appelle, c'est K-H-A-D-R-A.
Un nom de plume, comme on sait.
Oui, hein, absolument. Alors, je vous lis cela. Donc, ça donne ceci. Je lui demandais comment elle faisait pour supporter ces déboires qui s'accrochaient à elle comme des revenants. Elle me répondait d'une voix limpide, « On fait avec ». Le temps s'arrange pour rendre les choses vivables. Alors on oublie et on se persuade que le pire est derrière soi. Bien sûr, le gouffre nous rattrape au détour d'une solitude et on tombe dedans. Curieusement, dans la chute, on éprouve une sorte de paix intérieure. On se dit « c'est ainsi et c'est tout ».
Oui.
On pense aux gens qui souffrent et on compare nos douleurs. On supporte mieux la nôtre après. Il faut bien se mentir. On se promet de se ressaisir, de ne pas retomber dans le gouffre. Vous retrouvez tous ces mots que vous avez appréciés?
Oui,
Gérald.
On est dans l'ordre de la survie ici.
Oui,
hein.
C'est ça.
Survie et, bon, jusqu'au lendemain, qu'est-ce qui va arriver? On n'y croit pas beaucoup, mais on tient le coup quand même, au cas où, au cas où, oui.
Gérald Cousineau, je vous remercie beaucoup. C'était votre première participation à cette émission à Livre Découvert pour la saison 2014-2015, mais
pas
la dernière.
Une heure maintenant, bravo.
Oui, ça y est. Alors, on a commencé ça la semaine dernière,
oui.
Et puis cette semaine, on remet ça. Ben, je pense que les gens apprécient bien parce que, comme vous pouvez le remarquer, on prend un peu plus notre temps. Puis il y aura plus d'extraits. On va parler de plus de nouveautés, mais aussi de classiques, par exemple avec mon prochain invité, on va revenir en arrière et on va aller se plonger dans l'œuvre d'Anne Hébert qu'on oublie peut-être un petit peu trop.
C'est vrai.
Avez-vous lu beaucoup de Anne Hébert?
Oui, il fut un temps où je lisais beaucoup Anne Hébert. J'avoue ne pas l'avoir lu depuis quelques temps, mais on ne peut pas l'oublier, non.
Non, et je suis sûr.
De la littérature québécoise.
Et je suis sûr qu'on va vous donner envie de replonger dans les vagues littéraires.
dans le torrent
littéraire d'Anne Hébert. Merci beaucoup, Gérald Cousineau.
Plaisir.
Je vous souhaite une très belle fin de journée.
À vous aussi, au revoir.
Merci, au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et l'invité spécial à cette émission, nous venons d'en parler, c'est malheureusement pas Anne Hébert, bien évidemment pas, mais Michel Langlois. Michel, lorsqu'on parle de vous, bonjour d'abord.
Bonjour, bonjour.
Je suis tellement contente de vous recevoir.
Merci.
Ça a été un petit peu, il faut le dire, presque au pied levé. Parce que malheureusement, j'attendais quelqu'un qui m'a fait faux bond. Et comme on devait se voir de toute façon d'ici quelques semaines, je vous ai vite appelé, je vous ai dit, Michel, si je vous dis, là, la prochaine, venez-vous, il m'a dit oui.
Et j'étais ravi.
Et je vous en remercie infiniment. Et si je vous ai fait venir, c'est que je me suis dit, bon, on va juste quand même rappeler que votre nom est associé à d'autres noms de cinéastes. Je pense à Léa Paul, dont vous avez scénarisé déjà des livres. Vous avez vous-même, des films, vous avez vous-même scénarisé et réalisé Cap Tourmente,
oui,
qui
oui.
À l'époque avait révélé un certain Roy Dupuis.
Dupuis.
On s'en souvient bien, qui était tout jeune.
Oui.
Et on se disait, mon Dieu, avec des yeux comme ça, celui-là, il va aller loin. Et puis, je vous ai appelé parce que, et là, je m'en veux terriblement, et je vous l'ai avoué au téléphone, je me suis dit, mais où étais-je, sur quelle planète étais-je l'an dernier pour avoir raté la sortie de ce documentaire, et pourtant dont finalement beaucoup de journaux ont quand même parlé, j'ai lu beaucoup de choses, ce documentaire que vous avez réalisé autour d'Anne Hébert, qui s'appelle Anne des 20 jours.
Anne des 20 jours. Il est sorti en fait au mois de mai, hein, le 9 mai, le jour de mon anniversaire, à Excentrice. Il est passé après à la télévision.
Oui.
Peu de temps à l'affiche, trois jours.
Oui,
c'est
Dieu.
Pas beaucoup. Maintenant, c'est comme ça, surtout pour ce genre de film. C'est un projet que je trimbalais depuis mes 30 ans. J'ai connu Anne Hébert, j'avais 30 ans.
Et, dans quelles circonstances vous vous êtes connu?
Je l'ai connu à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans une auberge, l'auberge L'Été de la famille Desgagné, où Anne était venue un jour s'informer pour les prix d'une chambre ou de la pension. Et je l'ai reconnue. J'avais déjà une passion pour elle. Ça avait été mon premier choc littéraire à l'âge de 16 ans, à travers sa poésie, Le tombeau des rois. Et ça m'est tombé dans les mains à 16 ans. Et je me suis dit, mon Dieu, on peut écrire comme ça. Donc, 15 ans plus tard, ou à peu près, je la vois arriver dans cette auberge. Elle était très belle, comme vous savez. On la reconnaissait.
Oui.
Et je lui ai dit, mais c'est moi qui l'ai reçu. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes Anne Hébert? Elle a dit, oui, bien sûr. Donc, je peux vous serrer la main. Oui. Alors, je lui ai promis que si elle venait s'installer dans cette auberge, elle n'allait pas le regretter, que moi, je me portais garant de son séjour, de son bien-être. Elle est venue d'abord pour une semaine, puis elle est restée 20 jours. Donc, d'où le titre du film, Anne des 20 jours. Et on a continué, s'est développé un peu une amitié. On a continué à... Je lui ai écrit d'abord, elle m'a répondu, elle me répondait toujours. Quand ses livres sortaient, elle m'envoyait avec une dédicace. Il y a une correspondance assez volumineuse. Et, mais le temps faisant, les liens se sont un peu défaits par ma faute, au fond. J'en parle beaucoup dans le film. Parce que moi, quand j'écrivais à cette personne pour qui j'avais énormément d'admiration... Ça me prenait deux semaines d'écrire une lettre, tu vois?
Oui.
Tu fais des brouillons, tu veux pas dire des conneries, tu veux pas faire de fautes, tu veux dire des choses intelligentes. Oui. Et elle, ben, elle me répondait gentiment, mais elle devait écrire ça, quoi, sur le coin de la table,
oui,
c'est tu vois?
Ça. Oui, donc, oui.
Donc, ouais. C'est devenu un peu une charge de lui écrire les choses. Puis ma vie a pris un autre tournant. J'ai commencé à travailler dans le cinéma. Et puis le temps s'étire. Il y a des trous énormes. Et ça devient difficile de renouer. Et puis, de fil en aiguille, on s'est un peu perdu de vue. Et c'est ça que j'essaie d'exprimer dans le film, c'est-à-dire... À la fois l'admiration que j'avais pour elle, bien sûr, mais du point de vue du jeune homme que j'étais, qui a aussi suivi son œuvre au fil des parutions, et cette espèce de regret d'avoir laissé passer cette chance-là. Mais en même temps, je ne voulais pas devenir un gourou, pas un gourou, un adepte, tu vois, je ne voulais pas
idolâtrer bêtement quelqu'un.
Oui, tu vois, je voulais bien avoir un rapport d'amitié, mais je ne voulais pas être, comme je sais, des gens qui vont, être en admiration devant un Yourcenar ou des choses comme ça, j'avais peur de ça. Mais la vie nous a séparés. Mais
vous ne vous êtes jamais séparés de son œuvre.
Non.
Vous avez à peu près évidemment tout lu. Qu'est-ce qui vous a marqué beaucoup? Je veux dire que c'est une question un petit peu idiote parce qu'il y a tellement de choses dans l'univers de Anne Hébert. On pourrait poser la question à plein de gens. Puis il y en a qui diraient Kamouraska, il y en a qui diraient Les Fous de Bassan, il y en a qui diraient... Mais plus largement, qu'est-ce que vous retenez de l'œuvre d'Anne Hébert?
Mais moi, je peux emprunter ses paroles même, parce qu'elle dit... moi, je suis surtout fasciné par sa poésie, qui est présente dans ses romans, d'ailleurs. Oui. C'est toujours un recours à la poésie, même dans les histoires qu'elle raconte. Et elle dit, écrire de manière poétique, c'est chercher la lumière. Elle dit, pour beaucoup de gens, écrire de manière poétique, c'est écrire d'une manière obscure. Mais pour moi, c'est chercher la lumière. Et ce qui me frappe toujours dans l'œuvre d'Anne Hébert, c'est cette quête de la lumière. Et dans des histoires parfois très sombres, la plupart du temps sombres, que ce soit Kamouraska ou Les Fous de Bassan ou Le Torrent, même Le Torrent est une histoire terrible. Pourtant, quand on lit Le Torrent, si dur que soient la mère, cet enfant qui devient sourd parce que sa mère l'a battu, etc., on referme le livre et on en garde une impression de lumière. Quelque chose de lumineux a eu lieu, même en parlant de choses.
À quoi est-ce qu'on peut attribuer ça? C'est au niveau de l'écriture, c'est au niveau de l'image, c'est au niveau de...
C'est au niveau du langage. Oui. C'est-à-dire qu'elle arrive à combiner un réalisme descriptif avec de la poésie, ce qui est très difficile à faire. Là, j'avais relu sur votre demande les chambres de bois.
Oui, mais dont on va parler en seconde heure, en seconde demi-heure. Mon Dieu, c'est comme si l'émission durait 2 heures. Non, pitié, déjà 1 heure. Mais en seconde demi-heure, on va revenir parce que j'ai maintenant une nouvelle rubrique qui s'appelle Le classique de la semaine. Et j'ai choisi de revenir sur ce texte-là. D'accord. Alors, on va garder ça pour tout à l'heure. Mais si je vous parle de quelques œuvres signées Anne Hébert, par exemple, L'enfant chargé de songes.
Oui. Qui fait partie des œuvres plus tardives.
Plus tardives, c'est ça. Évidemment, dès l'instant que je vous laisse ton micro, et là, je parle à nos auditeurs, c'est parce que tous ces livres-là sont disponibles en format audio, bien évidemment. Les enfants de Saba.
Oui, très beau.
Kamouraska, évidemment. Œuvre poétique. Poème pour la main gauche.
Oui.
Le premier jardin aussi, le torrent dont vous avez parlé et qui est là, et puis un habit de lumière,
c'est aussi magnifique.
Et puis évidemment, bon, quand on pense à Anne Hébert, on pense au Fou de Bassan aussi beaucoup. C'est quand même un titre qui reste ancré, imprimé, enraciné en nous. Bon, Kamouraska aussi, d'ailleurs, mais tellement d'autres. Ce que je vous proposerais, c'est qu'on va écouter Daniel Mille, que vous connaissez peut-être pas, qui est un accordéoniste français, un type absolument merveilleux. Et à un moment donné, dans un de ses disques, il avait créé une pièce qui s'appelait Les Fous de Bassan. Et ce que je vous proposerais, à un moment donné, c'est de rentrer sur cette musique-là et de nous faire la lecture d'un petit extrait des Fous de Bassan. Je vous rappelle que je suis avec Michel Langlois, qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Anne des 20 jours et qui est consacré à cette amitié que vous avez eue avec Anne Hébert.
Je me suis mis cela dans la tête, de vivre la tempête jusqu'au bout, le plus profondément possible, au cœur de son épicentre, semblable à un fou que je suis, jouissant de la fureur de la mer et m'y projetant, délivré de toute pesanteur comme un bouchon de liège. Transi sur mon rocher, dans mes vêtements mouillés, je m'égosille à crier dans un fracas d'enfer. Personne ne peut m'entendre et le cri rauque qui s'échappe de ma gorge me fait du bien et me délivre d'une excitation difficile à supporter. La mer déchaînée déferle sur la grève, se heurte aux rochers, rejette une nuée de cailloux et de bouts de bois, des débris de toutes sortes. Je retourne me sécher, manger et dormir chez ma cousine Maureen. À chaque apparition, j'emprunte un nouveau pantalon, une nouvelle chemise dans la garde-robe du défunt de cette bonne vieille Maureen, et je retourne à mon poste sur le rocher. Maureen me crie que je suis fou et que je vais attraper mon coup de mort. Rien à faire. Il faut que je pleure et que je hurle, dans la tempête, que je sois transpercé jusqu'aux os par la pluie et l'embrun. J'y trouve l'expression de ma vie, de ma violence la plus secrète.
C'était Michel Langlois qui nous lisait cet extrait des Fous de Bassan sur la musique signée Daniel Mille, qui elle-même s'intitule Les Fous de Bassan. Michel, vous restez avec nous, Michel Langlois, parce que nous allons tout à l'heure aborder un classique parmi les classiques signé également Anne Hébert. Et je vous propose peut-être d'écouter une chanson que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Les Fous de Bassan. Et c'est signé par un garçon qui s'appelle Romain Didier.
Photo, seul sous mon abat-jour, je m'écris des mots, des cris, des mots d'amour. Quatre fois par mois, c'est mon anniversaire, tout seul je m'envoie des bouteilles à la mer. Je suis fou de bassin, je pointe à la ligne, j'attends au bord des fenêtres maritimes. Je suis fou de bassin, perdu sur l'île d'Ouessant. Et je m'envoie des lettres anonymes. Je m'écris sans voix le soir quand le jour baisse, pour qu'on connaisse pas l'adresse de ma détresse. Bordeaux, Paris, Nantes, je m'écris tout en bleu, et je jette l'encre au fond du ventre et des yeux. Je suis fou de bassin, je pointe à la ligne, j'attends au bord des fenêtres maritimes. Je suis fou de bassin, perdu sur l'île d'Ouessant, et je m'envoie des lettres anonymes. Des aveux frileux dans des enveloppes timides que je colle comme je peux avec mes yeux humides. Je m'écris à il sur des timbres à 2 francs. La mer est tranquille, baiser de l'île d'Ouessant. Je suis fou de bassin, je pointe à la ligne, j'attends au bord des fenêtres maritimes. Je suis fou de bassin, perdu sur l'île d'Ouessant, et j'attends ta lettre, Anne de Nîmes.
Il s'appelle Romain Didier, ben oui, nous aussi on l'applaudit bien fort. C'était d'enregistrer un spectacle en Allemagne, ça. Ben oui, les Allemands sont fous de chansons françaises, et notamment de Romain Didier qui chantait les fous de bassin. Ce qui m'amène à remercier encore une nouvelle fois Michel Langlois d'être là. Je lui donne rendez-vous dans la deuxième demi-heure. Nous allons revenir, puisque le classique de la semaine, nous allons revenir sur les chambres de bois d'Anne Hébert. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Say, c'est l'émission au quotidien, à chaque fois je fais le coup. Non, on reprendra pas ça. Vous savez que je fais au quotidien tous les matins. Alors, à force de dire ça tous les jours, pardonnez-la, elle est un peu énervée, la fille. Donc, c'est l'émission Un livre découvert, mes amis. Et je vous retrouve d'ici quelques minutes.